que nous ne pouvons pas laisser installer l'idée que la Pologne, l'Estonie, la Roumanie seraient en situation de faiblesse. Parce que l'étape d'après...
Radio-Chi. 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
Mercredi 24 septembre, déjà la deuxième semaine, on est en plein cœur de la deuxième semaine de la rentrée de Topette. On vous rappelle que nous étions avec de formidables invités ces deux jours passés. Nous étions avec Fanzel et les Folies Angevines, qu'on peut déjà retrouver en podcast sur le site internet de la radio. Demain, nous serons avec le Théâtre du Quai, les équipes du Quai, pour nous parler certainement, probablement, de la rentrée et de leur saison 2025-2026, je n'en doute point. Et ce soir, nous sommes avec Jean Luard, on sera avec Jean Luard dans quelques instants, Segréen, Angevin, entrepreneur culturel en Anjou, transmission d'édifices de caractère, en tout cas c'est annoncé comme ça sur sa page LinkedIn, voilà les sources, il est auteur de plusieurs ouvrages, alors je pourrais presque tous les citer, il y en a quasiment 6, en tout cas moi je retiens le premier, Alfred de Falloux et le Haut Anjou, mais Jean me dira non, ce n'était pas le premier, car ça, voilà, il est plein de surprises Jean, et il est plein de surprises parce que je ne m'attendais pas sur ce sujet, il parle de cheval avec son dernier ouvrage, donc 300 ans de cheval dans le Haut Anjou. Le Haut Anjou, j'aurais pu deviner, c'est son territoire de cœur. Il va pouvoir nous en parler aussi un petit peu. Et ces 300 ans de cheval sont exposés au château de la Laurie depuis le 1er septembre jusqu'au 6 octobre. On est en plein cœur de l'exposition. Donc si vous voulez découvrir un petit peu plus de tout ça, comprendre ce que c'est, quelle est cette histoire-là avec le cheval dans le Haut-Anjou et plus spécialement au château de la Laurie, eh ben, restez à l'écoute de cette émission. On aura la crocro de Charlie tout à l'heure. Bonjour Charlie, bonne rentrée.
Merci, salut Pierre Benoît. Ça va la forme ?
Impeccable, et toi ?
Ça va, je suis un peu défoncé là. C'est pas que j'ai fumé, hein, je te rassure. C'est que je suis allé faire une petite baignade là au Sablière, donc je suis zen quoi.
Ah ok, bah ça tombe bien. Une émission zen, c'est pas déconnant non plus. Alors là non plus, je ne l'attendais pas au tournant. Déjà, je l'attendais pas à ce qu'il revienne cette saison. Il est avec nous. Bonsoir Noodles.
Bonsoir Pierre Benoît.
T'aimes le sport, t'aimes le théâtre et t'aimes le cheval.
Ben oui, j'aime ces trois activités en effet.
Voilà, t'as passé ton enfance sur les hippodromes de la région. Le Lion d'Angers, c'est ton territoire de cœur à toi.
Le haras de Lille-Briand, je le connais, oui, de haut en bas.
Voilà, donc tu pourras réagir aux propos de Jean, découvrir un petit peu de l'histoire aussi et te laisser porter par ta curiosité. Merci d'être avec nous, mon cher Julien. Topette, c'est parti tous les soirs, 18h10 jusqu'à 19h.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
J'oublie à chaque fois que le monsieur le redit, l'heure et le nom de l'émission. Donc voilà, il a pris mon travail. Nouveauté de cette saison, la Madeleine du Graal. Et ce soir, on s'intéresse aux cabines téléphoniques.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps, l'heure a été fatale. C'est la Madeleine du Graal.
C'est la Madeleine du Graal.
Daron, daronne, bienvenue dans la Madeleine du Graal. Aujourd'hui, entrons dans un monument urbain disparu, la cabine téléphonique. Cet objet magique qui nous connectait au monde entier avant que nos poches ne deviennent des centrales de communication. Oh, ce son, cette mélodie métallique d'une pièce de 2 francs, puis 20 centimes d'euros, qu'on glissait dans la fente avec l'espoir qu'elle ne ressorte pas immédiatement par la trappe du bas. La cabine téléphonique, ce refuge vitré au milieu de la ville, cette bulle d'intimité paradoxalement exposée à tous les regards. Les cabines téléphoniques en France ont vraiment connu leur âge d'or dans les années 70, 80, 90. De la cabine grise en métal des années 70 au modèle Publifone orange de France Télécom dans les années 90 jusqu'aux dernières cabines plus modernes des années 2000, elles ont forgé notre paysage urbain. Qui n'a jamais vécu ce stress de la communication minutée ? À un moment, oui, je suis bien arrivé, c'est Julien. Non, 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 j'ai pas oublié mes affaires. Oui, je rentre demain. Non, je serai en retard. Et tout ça en gardant un œil sur le décompte des unités qui filaient à toute vitesse dès que l'appel était longue distance. Et ce moment de panique, quand le téléphone se mettait à biper, signalant qu'il fallait vite insérer une nouvelle pièce ou dire au revoir dans la précipitation. Quel stress ! On avait développé une véritable expertise en termes de synthèse orale, dire l'essentiel en un minimum de temps. Bref, tout le contraire des sonorastas d'aujourd'hui. Les cabines, c'était aussi l'art de la patience. Ces files d'attente qui se formaient devant, surtout le dimanche soir, jour de conversation avec la famille éloignée. On attendait notre tour en faisant mine de ne pas écouter la conversation du précédent usager, tout en écoutant absolument tout. Et la nuée téléphonique, ce gros livre jaune et blanc suspendu sous le téléphone, aux pages souvent déchirées ou maculées de mystérieux numéros griffonnés dans la marge. Une base de données analogique de tous les numéros de la région, consultable par tous. Les cabines téléphoniques étaient aussi le théâtre de nombreuses scènes de notre quotidien. Qui n'a jamais appelé un ami pour dire qu'on s'est en retard ? Qui n'a jamais passé cet appel crucial pour un rendez-vous amoureux ? Qui n'a jamais laissé un message à ses parents en mode « Appelez-moi à la cabine de la place du village, à 19h précise !» C'était l'époque où il fallait toujours avoir des pièces sur soi. La monnaie prenait une importance capitale. On en commandait toujours. Vous n'auriez pas la monnaie d'un billet de 100 francs ? C'est pour téléphoner. On gardait précieusement nos pièces pour les appels d'urgence. Et l'arrivée des cartes téléphoniques. Cette révolution, plus besoin de monnaie, on avait notre précieuse carte avec son crédit prépayé. Certaines devenaient même des objets de collection avec leur visuel publicitaire ou artistique. Qui se souvient des cartes avions ou Tintin qu'on s'échangeait dans la cour de récré ? La cabine, c'était aussi ce plaisir tactile de raccrocher le combiné avec énergie après une conversation houleuse. Un geste libérateur que le smartphone nous a définitivement volé. Aujourd'hui, on ne peut plus que raccrocher au nez virtuellement, sans ce bruit saisissant du plastique contre le métal. Et puis, progressivement, les portables sont arrivés. D'abord réservés aux cadres supérieurs et aux urgentistes, ils se sont démocratisés à la fin des années 90. Les cabines ont commencé à se vider, à se dégrader. Transtélécom, devenu Orange, a entamé le retrait progressif dès 2015. Aujourd'hui, les cabines téléphoniques ont pratiquement disparu de notre paysage. Sur les 300 000 cabines qui existaient en France dans les années 80-90, il n'en restait plus que quelques centaines en 2019 et elles ont complètement été démantelées depuis. Certaines ont connu une seconde vie en devenant des mini-bibliothèques, de défibrillateurs ou sont conservées comme un patrimoine historique. Ironiquement, ces cabines téléphoniques qui nous ennuyaient parfois sont devenues des objets de nostalgie. On les photographie quand on en trouve encore une, on les reproduit en miniature comme objet déco et elles apparaissent dans des films d'époque comme marqueurs temporels. Elles représentaient une époque où être injoignable était la norme, où l'on pouvait véritablement disparaître pendant quelques heures sans que personne ne s'inquiète. Une époque où les conversations téléphoniques avaient une valeur particulière, justement parce qu'elles n'étaient pas possibles à tout moment. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que votre smartphone vibrera dans votre poche, ayez une pensée émue pour ces sentinelles urbaines disparues, ces points de connexion qui ont guidé notre jeunesse. Les cabines téléphoniques étaient moches, parfois malodorantes, souvent vandalisées, mais elles étaient notre lien avec le monde, notre internet analogique, notre réseau social, avant l'heure. C'était la Madeleine du Graal, à bientôt pour un nouveau voyage dans nos souvenirs.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal, c'est la Madeleine du Graal.
La Madeleine du Graal qu'on peut retrouver désormais à peu près toutes les deux semaines ou alors tout simplement quand il y a des chroniqueurs qui me plantent. Voilà, je vous dévoile les coulisses de l'émission, c'est pas le cas ce soir puisqu'on aura, je l'ai annoncé tout à l'heure, Charlie. Et voilà, ça c'est la nouveauté aussi cette saison, on a essayé de faire des choses cohérentes. On avait Adrien qui ne captait rien et la crocro de Charlie, bah ce sera en alternance. Voilà, tous les mercredis vous aurez soit l'un, soit l'autre. Et puis au moins ils se croisent pas, ça évite de faire des trucs peut-être un petit peu trop explosifs. Ils se croiseront mais en dehors de l'émission. Blague à part, on va accueillir maintenant notre invité de ce soir. Julien, je te laisse l'annoncer.
C'est Jean Luard.
Qu'on accueille tout de suite.
L'invité de Topette sur Radio G.
En vrai, Charlie, avec Adrien, vous pourrez faire très prochainement une chronique spéciale si ça vous chante, bien évidemment.
Oui.
Bonsoir mon cher Jean.
Bonsoir Pierre Benoît.
Et comme l'a dit Julien, Jean Luard. Alors je me suis trompé en préambule, je l'avais annoncé, tu n'as pas fait 8 ouvrages, mais bien 10. Ceci dit, tu n'as pas su me citer les deux autres que tu as en tête. Donc est-ce que c'est une vraie information ou pas? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que tu en as sorti un tout récemment, 300 ans de cheval dans le Haut-Anjou. Tout est dans le titre d'une certaine façon. On va brosser large, on va parler de cheval dans le Haut-Anjou, et plus précisément, ça c'est peut-être plus en sous-titre, au château de la Laurie.
Oui, parce que le château de la Laurie, c'est de là que tout est parti il y a 300 ans, en 1717 exactement, lorsque le propriétaire de la Laurie a été nommé inspecteur des haras du roi par le roi Louis XV.
Oui, voilà, on est vraiment dans une autre époque. Le château de la Laurie, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est au sud-est de Segré, vraiment aux portes de Segré. Quand on est sur la 4 voies, on aperçoit une petite guérite qui faisait office d'entrée avant, je crois.
Oui, on voit encore le pavillon de garde qui donnait l'accès. Aujourd'hui, c'est la 4 voies, donc on n'y accède plus par là. Mais le château de la Laurie est l'un des plus grands châteaux et les plus connus de l'Anjou.
Voilà, tu diras certainement pas le contraire, d'autant plus qu'il y a l'exposition autour de ton livre qui est consacrée en ce moment jusqu'au 6 octobre. On va en parler dans quelques instants. Mais avant tout ça, Jean, parle-nous de ce livre. Alors, je sais pas si tu as pu nous ramener un exemplaire ou pas. Je ne crois pas, apparemment, je l'ai pas acheté encore. Mais donne-nous à voir déjà visuellement la pochette, l'épaisseur. Tout à l'heure, tu as décrit juste avant qu'on prenne l'antenne à Charlie un petit peu ce que tu proposais comme type d'ouvrage. Ce livre-là, précisément, à quoi il ressemble?
Eh bien, c'est un ouvrage de 160 pages, très illustré, avec 200 photos, photos actuelles, photos, beaucoup de photos d'archives aussi, qui sont inédites, hein. C'est la première fois qu'on les voit, puisque je suis allé les chercher dans les collections familiales de tous les châteaux de la région, souvent les châteaux, puisqu'ils faisaient des photos déjà depuis le 19e siècle. Donc beaucoup de photos d'hippodromes, de photos de fêtes populaires, puisque les courses étaient des fêtes avant tout. Et puis je parle aussi, outre le haras de la Laurie, les différents champs de course donc qu'il y a dans la région, qui sont très nombreux. Et puis le cheval sous toutes ses formes, le cheval de travail, agricole, dans la ville aussi, les omnibus qui faisaient office de car de l'époque. Pour le voyage, et puis le cheval de luxe aussi qui servait à tirer les attelages à l'époque de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Et donc on a beaucoup de photos retrouvées de cette époque qui est révolue aujourd'hui.
Impossible de ne pas commencer déjà à évoquer l'histoire quand on parle du livre, bien évidemment. Alors dans le Haut-Anjou, je le précisais, c'est dans le titre, hein, de toute manière, on recouvre quelle réalité territoriale? Le Haut-Anjou, c'est un terme assez récent, c'est d'après-guerre.
Alors le Haut-Anjou aujourd'hui, c'est l'arrondissement de Segré en fait, c'est-à-dire on va de Pouancé jusqu'au Lion d'Angers et à Châteauneuf-sur-Sarthe, en passant par Candé plus au sud, et donc ça c'est le Haut-Anjou actuel, et le Haut-Anjou depuis 1800, avant quand on regarde l'histoire, eh bien ça comprenait Cran et Château-Gontier également, puisque Château-Gontier était la capitale de cette partie de l'Anjou, qui est désormais en Mayenne. Donc pour la partie du 18e, dans mon ouvrage, j'évoque également Cran et Château-Gontier qui sont liés avec ce territoire depuis toujours, et notamment les courses de Cran au 19e et encore aujourd'hui qui sont très importantes.
Sachons-le, Cran et Château-Gontier font partie de ce qu'on appelle l'Anjou. Le terme Anjou recouvre une réalité historique, l'ancienne province angevine qui dépasse un petit peu le cadre du département de Maine-et-Loire. Voilà, on prend ça au Mayennais, ça nous fera pas de mal. On aime bien, vu qu'on peut plus rien prendre à Nantes. Nantes qui veut. Bon, c'est un autre débat. Revenons sur le cheval en Haut-Anjou. Jean, cette histoire. Alors, qu'est-ce qui est marquant ici? Est-ce qu'on a une histoire plus singulière qu'ailleurs? On sait qu'on a un hippodrome au Lion d'Angers. Il y a un hippodrome, du coup, au château de la Laurie. Tu parlais du travail de l'omnibus. Est-ce qu'on a des singularités ici au travers de l'histoire qui font qu'on a des petites particularités comparées à d'autres territoires autour de chez nous?
Oui. Alors, on pense souvent à Saumur en Anjou pour la capitale du cheval. C'est vrai, c'est arrivé par la suite, et ça l'est toujours. Mais en 1717, donc comme je disais, c'est le propriétaire de la Laurie qui était l'inspecteur des haras pour l'Anjou, la Touraine et le Maine. Donc c'était quand même une très grande circonscription, et il en était donc à la tête. Et sur son propre domaine de la Laurie, il se fait construire un haras privé qui existe toujours, plus en activité, mais les bâtiments du 18e, puisqu'ils datent de 1740, sont toujours visibles et sont vraiment un exemple très intéressant. Donc tout a démarré là, et puis au cours du 18e, c'est vrai que Saumur a pris son importance avec la caserne de cavalerie, et puis Angers était aussi une capitale du cheval, puisqu'on avait place de l'Académie, à la place de la caserne des pompiers d'aujourd'hui, eh bien c'était l'Académie d'équitation. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Et c'était un très beau bâtiment qui malheureusement a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui accueillait tous les grands noms de l'Europe qui envoyaient leurs enfants, leurs fils évidemment à l'époque, étudier l'équitation à Angers. Donc toutes ces personnes poussaient souvent leur voyage jusqu'à la Laurie, puisque c'était la grande demeure fastueuse de l'inspecteur des haras.
Et même la patinoire du haras à Angers aussi, hein, qui recouvre quoi, une réalité historique liée au cheval.
Exactement. En plus de l'Académie, et donc plus tard, il y aura le haras au 19e, et le haras d'Angers se trouvera en plein centre-ville jusqu'aux années 1975, où il déménagera au Lion d'Angers, à Lille-Briand, où il est toujours. Bon, on ne parle plus de haras depuis quelques temps, mais c'est toujours là aussi, dans le Haut-Anjou, que s'écrira l'histoire du cheval. Et les hippodromes, effectivement, on a une concentration d'hippodromes très très importante, presque unique, entre Pouancé et Senones, Segré, qui a sa particularité d'avoir le château en toile de fond, le Lion d'Angers, on avait Château-Gontier jusqu'à il y a peu, Combré aussi qui a disparu, et puis on a Molière, on a Cran qui sont des courses très importantes.
Et à Senones, je crois même que l'hippodrome, il passe un peu sur la route, on ferme la route, c'est ça, hein?
Oui, et Cran aussi.
Écran aussi, voilà. Et on a même un ancien hippodrome à Boudré, près de Sèche. Mais là, on est peut-être on commence à dépasser le territoire.
Effectivement, dans la forêt de Boudré, là, à Sèche, mais on est juste à la sortie du Haut-Anjou.
Voilà, donc on précise bien que la délimitation territoriale, c'est le Haut-Anjou avec cette réalité historique.
C'est vraiment une terre de cheval. Voilà.
Terre de cheval. Alors ça tombe bien parce qu'on a une personne du cru qui vient de cette terre de cheval et qui a pu, depuis sa tendre enfance, profiter de l'hippodrome du Lion d'Angers. Julien, est-ce que ça t'évoque des choses, cette histoire du cheval? Est-ce que tu avais conscience de ce patrimoine équestre ici dans ton territoire haut-angevin?
Alors j'en avais conscience, oui, parce que depuis ma plus tendre enfance, mon père m'a emmené un petit peu partout dans ces hippodromes. J'ai pu arpenter les hippodromes de Molière, de Château-Gontier, de Cran. J'allais très souvent aux Trois Glorieuses à Cran début septembre, d'ailleurs. Grande course qui avait lieu le week-end dernier, ou il y a deux semaines, c'est vraiment début septembre. Et puis avec le Mondial du Lion aussi, chez moi, pour le coup, là, à 10 minutes à pied, le Mondial, qui est quand même le championnat du monde de concours complet des jeunes chevaux de 6 et 7 ans. Donc ça, il y a des Néo-Zélandais, des Irlandais, enfin vraiment, ça, c'est vraiment mondial. Et ça, je me posais la question, justement, quand j'en parlais, de à quel moment il y a eu cette différenciation entre l'équitation, concours complet comme au Mondial, et à quel moment la société, par exemple, des courses est venue apporter son grain de sel là-dedans pour apporter vraiment quelque chose de plus du sens de, alors tu parlais de fête de populaire, mais aussi du commerce dans ces courses, voilà.
Au Lion d'Angers?
Au Lion d'Angers, partout, enfin, à Cran, à un peu partout aussi dans la région.
Alors, les courses hippiques ont été inventées par les Anglais au 18e. La Révolution n'a pas permis qu'en France ça se développe avant, et ce n'est qu'au 19e, qu'au début du 19e, que les courses sont apparues. Chantilly, c'est 1834, et Angers, justement, 1836, très tôt, les courses d'Angers, déjà à Écouflant, comme aujourd'hui, et puis il y aura Cran en 48, Segré en 53, et puis le Lion d'Angers, ça arrivera un petit peu plus tard, mais l'histoire des courses hippiques, c'est plutôt cette période, et plus tard, le Lion prendra, en plus d'avoir des courses hippiques, accueilli dans le domaine de Lille-Briand, puisque c'est la famille de Tréderne à l'époque qui avait créé ces courses sur sa propriété, au cours du XXe siècle, avec le déménagement du haras d'Angers au Lion d'Angers, ça donnera une dimension bien plus importante et on créera ce fameux concours et le Lion d'Angers deviendra vraiment une capitale.
La réponse à tout, Jean. On parle du lion, on parle des chevaux, voilà, on est dans la ménagerie de Topette qui part en pause musicale, on fait voilà une pause musicale et on revient juste après, on écoute A Horse With No Name.
I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds.
out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. A desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love.
Ah, puisqu'il s'est moqué de moi, je propose de désannoncer cette musique. Ça s'appelle, Julien ?
A Horse with No Name.
Putain, ouais, tu l'as bien fait quand même. Bravo, bravo à toi.
Thank you.
Loupette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Charlie et Stone pour Sacro-Cro dans quelques instants. Ça arrive incessamment sous peu, un format spécial. Le dada, non, Charlie, le cheval.
Pas plus que ça, mais pas du coup, c'est quand même intéressant. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait quand même un hippodrome. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un hippodrome d'Angers, un peu dans le nord, je sais plus, Coulon s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle.
Écoufflant.
C'est Écoufflant?
L'hippodrome d'Angers.
Ah oui, c'est Écoufflant, pardon. Ah, ok, t'as raison.
Depuis 1800, donc 36. Très très vieil hippodrome en France.
Ok, ah oui, c'est relié à Écoufflant, ok.
Je n'y avais même pas pensé à l'hippodrome d'Écoufflant, alors que oui, il est assez connu. Justement, alors pourquoi on parle d'hippodrome, si vous prenez l'émission en cours de route, c'est parce que Jean Luard, qui est avec nous, a publié tout récemment un ouvrage qu'il a réalisé lui-même, 300 ans de cheval dans le Haut-Anjou, dont on a parlé juste avant. On vous encourage à reprendre le début du podcast si vous êtes à l'écoute en podcast. Si vous êtes en direct, bah, retournez chez vous pour attendre que le podcast soit en ligne. Mais en tout cas, restez avec nous surtout parce que maintenant, on va parler de l'exposition qui est associée à la sortie de cet ouvrage et qui dure depuis le 1er septembre, plus d'un mois puisque c'est jusqu'au 6 octobre. C'est à la Laurie et bah, c'est en plein cœur du sujet, justement, l'hippodrome de la Laurie, le personnage historique que tu as cité en 1600 et des poussières. Jean, je te laisserai redonner son nom. Cette exposition te permet quoi? Elle permet de poursuivre ton travail plus que de... Voilà, c'est aussi un coup de com' certainement pour parler de l'ouvrage, mais ça permet aussi de compléter. Il y a des vidéos, par exemple, il y a des objets dont tu n'as peut-être pas pu parler dans ton ouvrage. Comment elle est articulée, cette exposition, Jean?
Oui, comme j'ai fait un an de recherche, j'ai essayé de faire coup double, à la fois un ouvrage et puis aussi l'exposition, qui est un tout petit peu différente parce que elle est centrée sur Segré et le château de la Laurie. Les deux sont liés et je voulais justement montrer le lien qui a toujours uni les deux. Et donc c'est un peu moins large que l'objet du livre, mais par contre on peut y découvrir des objets et des films et des photographies qui ne sont pas forcément dans l'ouvrage. Donc le lieu dans lequel cette exposition est accueillie, c'est l'ancien haras du XVIIIe siècle de la Laurie, qui est exceptionnel. C'est un grand bâtiment avec des anciennes écuries, une grande salle d'exposition qui était la salle de remise pour les attelages, et puis l'espace central, c'est le manège qui servait au dressage au 18e et qui est toujours présent aujourd'hui sous nos yeux. Donc le lieu était parfait pour pouvoir accueillir cette exposition, et donc on peut y voir des panneaux historiques qui décrivent tout ça, mais aussi beaucoup de photographies, des objets, notamment j'ai reconstitué une partie du pesage. Le pesage, c'est l'endroit de l'hippodrome où on a les propriétaires, où on a les officiels. Donc c'était très chic, hein, on s'habillait. Donc j'ai retrouvé pas mal de costumes d'époque qui ont appartenu aux membres du comité de Segré. La famille de Saint-Genis, la famille de Candé, tous ces gens ont marqué les courses, et donc on peut retrouver leurs accessoires, voilà, qu'on avait la canne siège, les ombrelles, etc., du 19e. Tout ça est exposé, les chapeaux de forme. On a aussi des plans de l'hippodrome originaux. On a la balance, la fameuse balance, aujourd'hui, qu'on a oublié peut-être, sur laquelle était
peser les jockeys avant et après la course. Et donc, c'est une immense balance à échelle humaine qui permettait de peser et qui est en fer et qui a été remontée dans la salle d'exposition.
Et ben, pourquoi avant et après la course
ben pour vérifier le poids. Tous les jockeys sont vérifiés au niveau de leur poids.
Avant et après ?
Oui.
Pourquoi après, du coup ?
Pour être contrôlé, voilà, pour qu'il y ait
pas de... Ça va, s'ils n'ont pas grossi ou perdu du poids, entre
non, temps. Non, plutôt pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de triche.
Ah, d'accord, c'est une double vérification, voilà. En se disant que peut-être qu'ils ont pu tricher avant la course, mais une fois que la course est passée, certainement que l'élément de triche...
Et ça permet que tous les jockeys... soit au même poids et que ce soit la performance du cheval qui prime. Mmh. Donc on rajoute des poids sur les jockeys avant la course.
Ah ouais, OK.
Pour que tout le monde soit à égalité.
Ah ouais, je savais pas du tout.
Des petits poids dans les tapis de selle. Et donc à l'époque, c'était vraiment la balance une immense balance là sur lequel montait le jockey. Donc c'est vraiment un objet de curiosité et puis des casaques de différentes époques dont certaines du 19e. Et puis des films, comme tu le disais, j'ai retrouvé un film des courses de Segré en 1947, donc c'est vraiment unique, personne ne l'a vu. C'est un film qui avait été réalisé par le premier club cinéphile d'Angers des années 40, qui se baladait avec une énorme caméra et qui s'amusait à filmer professionnellement différents coins de l'Anjou. Et ils étaient passés sur l'hippodrome de la Laurie, et donc on a un superbe film d'une vingtaine de minutes avec la fête foraine qui avait lieu à Segré en même temps. C'était vraiment une fête populaire. Et puis on a des films des années 60 aussi, on voit un peu la différence. Et le concours épique aussi de Segré qui a eu lieu pendant très longtemps, jusqu'à la création d'un centre équestre municipal qui existe toujours et qui accueille ce concours épique depuis.
Rassure-moi Jean, tu l'as mis sur clé USB le film, tu l'as numérisé depuis parce que...
Il avait été numérisé, alors il est conservé... par les archives départementales d'Angers et avait été numérisé il y a quelques années et donc j'en avais une copie et donc j'ai rajouté des sous-titres pour que les gens reconnaissent les personnages, reconnaissent les lieux. J'ai rajouté un peu de musique aussi pour que ce soit un peu plus attrayant de l'époque et donc voilà, on peut voir ça sur un écran.
Julien, tu vois, y a tout pour toi, on parle même de cinéma maintenant.
Ah bah je vais être obligé d'y passer pour voir tout ça, ouais.
Ouais, tu connaissais le château de la Laurie?
Bah, alors, petite anecdote assez marrante quand même, c'est que...
Oula, alors vas-y, on prend 10 minutes.
Non, elle est très courte. J'ai fait mon lycée à Bourcheux-Sainte-Anne, à Segré. Et donc, dans le bus ou en voiture, parce que j'ai aussi fait du foot à Saint-James-d'Ontigny. Enfin bref, j'allais très souvent à Segré et à Saint-James. Et donc, je passais très très souvent à côté du château de la Laurie avec le panneau château de la Laurie. Et pendant très longtemps, j'ai cru qu'il y avait une faute de frappe et que les lettres avaient inversé. Et je croyais que ça s'appelait le château de la Loire. J'ai appris durant mon adolescence qu'en fait, non, c'était bien le château de la Laurie. Voilà, fin d'anecdote, c'était assez court.
C'est sympa, ouais. T'aurais pu penser que c'était le château de l'artiste, Laurie aussi.
Oui, aussi, c'est vrai.
Ça aurait pu.
Mais, et des fenêtres du lycée Bourchevreau, tu pouvais certainement avoir vu sur le centre équestre municipal de Segré, qui existe depuis 1967 et dont je raconte aussi l'histoire dans cette expo, puisque tout ça est lié. Et voilà, il est collé au lycée.
Ah ouais, j'en ai pas souvenir. Mais
non, parce que tu étais très concentré sur tes cours.
Sur mes études,
c'est
oui.
Bon, ça, y a ton papa et ta maman qui écoutent actuellement. Et
oui.
Voilà, faut tu regardais tes cours, pas la fenêtre, bien évidemment. Jean, tu restes avec nous, il est passionnant. Jean, on a donc un tout petit aperçu de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il a découvert et tout ce qu'il nous partage avec ce livre, 300 ans de cheval dans le Haut-Anjou et l'exposition éponyme qui porte le même nom. C'est ça, Jean, hein? Non, c'est homonyme.
À peu près.
Pas tout à fait.
À 300 ans de cheval dans le Haut-Anjou pour le livre, qui est plus large. Et pour l'expo, c'est 300 ans de cheval à la Laurie et à Segré.
À la Laurie et à Segré, presque éponyme. On passe à la crocro de Charlie et on revient donc dans 30 secondes puisqu'elle est très courte aujourd'hui.
Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter...
La crocro, la chronique de Charlie.
En voiture, Simone !
Non mais sérieux ?
La crocro, la chronique de Charlie.
J'adore le hula-hoop !
Ironique, absurde, réfléchi. La crocro, la chronique de Charlie.
J'ai mangé une méduse.
Survolté, décalé, déjanté. La fofo, la folie de Charlie.
Yo yo yo, c'est quoi ce tempo qui s'infiltre dans les tuyaux ? Est-ce le nouveau rap de Mario ? Mais non, c'est le retour de la crocro. Aujourd'hui, je reprends le micro avec mon amour de la radio. Est-ce que je vais être rigolo ? Ou bien m'enfoncer comme un paquebot ? Pas de panique, voici ma musique. Pose-toi et ouvre tes acoustiques. Ce sera inoubliable, même pour les amnésiques. Voilà que sourit Pierre Benoît cette fois. Je le mets pas dans l'embarras. De toute façon, il s'en fout depuis qui les papas. C'est la rentrée sur la radio G. Presque rien n'a changé. Toujours personne à nous écouter, sauf Christelle Morancé.
La concro, la concro. Ironique, absurde, réfléchie, survoltée, décalée, déjantée, la chronique de Charlie.
Voilà, une crocro bien spéciale, merci beaucoup, effectivement. Petite dédicace à la personne que tu as citée, si elle nous écoute. On est toujours ouvert au dialogue, éventuellement. On a toujours des sous, si voilà.
Des caisses à remplir.
Des caisses à remplir, si elle veut revenir sur sa décision. Eh ben, merci beaucoup. On retourne du coup au galop, vers Jean et du côté de la Laurie.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Voilà, Jean. Tu as apprécié ce petit rap de Charlie ?
Oui, en live, bravo.
En live, je le reconnais. Alors Charlie est aussi un grand artiste par ailleurs, puisqu'il se produit sur scène. Je ne sais pas si on peut le dire, tant qu'on peut venir te voir sur scène ou ça doit rester confidentiel. C'est trop tard, de toute façon, je viens de le dire.
Sur scène, ouais, si au Folie Angevine, il y a le spectacle, c'est la comédie musicale à la fin de l'année. Et le stand-up, si j'arrive à me motiver à reprendre la plume et à remonter sur scène, ouais, j'aimerais bien en faire cette année, quoi.
Tu nous tiendras informés, bien évidemment. Julien, on passe à une autre pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute ?
J'en ai aucune idée puisque tu me l'as pas dit.
C'est Photo Photo de Théophile et on revient ensemble juste après.
Théophile. À tout de suite.
Pas l'attention qui me manque, j'ai juste l'impression d'être en otage. Quand tout le monde me dit donc, en regardant mon visage, je me sens pas artiste ni musicien. Quand je me tiens en face de, ouais, on a toujours un qui se plaint. Quand on n'exauce pas tous ses voeux, tout ce milieu est dangereux. Rempli de privilèges, sur scène on s'identifie à eux. Derrière c'est tout un manège. Et je t'emmène avec moi, sans te faire croire aux poussières Dior. Moins je dors dans des draps de soie, plus je me plais dans l'effort. Photo, photo sur les réseaux, poteau, poteau pour le réseau. Musique mafia contact c'est trop. J'arrête là où je finis solo. C'est photo photo sur les réseaux. Poto poto pour le réseau. Physique commerce tout pour l'ego. J'arrête là où je finis solo. C'est donc pour ça que je me sens seul. J'ai pas la même vision que mes semblables. Quand la passion devient le beurre. Beaucoup de gens autour pour étaler la fable. J'ai besoin d'être une étincelle au milieu des feux d'ascenseur. Quand celui qui se prend pour celle défend les autres prédateurs. Et je t'emmène avec moi sans te faire croire aux poussières Dior. Moi je dors dans des draps de soie, plus je me plais dans l'effort. Photo, photo sur les réseaux. Poto, poto pour le réseau. Musique mafia, contact c'est trop. J'arrête là où je finis solo. C'est photo, photo sur les réseaux. Poto, poto pour le réseau. Physique, commerce, tout pour l'ego. J'arrête là où je finis solo. C'est photo, 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 photo. Photo, photo pour le réseau. C'est photo, 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 photo. J'arrête là où je finis solo.
Et Julien va nous dire, c'était donc l'artiste Théophile avec le titre Photo, photo. Exactement, on est toujours à l'écoute de Topette avec Jean Luard qu'on retrouve tout de suite.
Topette avec Pierre Benoît.
Ça va toujours Jean ?
Très bien.
T'es venu à cheval ?
Non, avec beaucoup de chevaux sous le capot.
Oh, grosse voiture, ça, on est bien segré comme quoi il y a des hauts revenus aussi par là-bas. Hauts revenus, au patrimoine, non mais tout ça pour dire, on va faire le petit lien avec le patrimoine aussi. Je sais pas si on peut parler de ton activité professionnelle aussi qui est quand même assez intéressante à côté parce que c'est en lien avec le patrimoine et justement on ne soupçonne pas qu'il y a de très belles demeures dans le Segré, dans le Haut-Anjou.
Oui, j'ai deux activités, celle dont on a parlé avant, et puis l'immobilier, mais spécialisé avec une agence qui vend du patrimoine, des maisons anciennes, que ce soit une longère ou un château ou un manoir, et bien pourvu que son architecture ait été conservée, on s'occupe de la transmission de ces bâtiments. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le Segré, hein, on ne le soupçonne pas, mais la Mayenne et l'Anjou sont les deux départements les plus riches en châteaux de France. Il y en a 1200, voire 1300 dans chacun des deux départements.
Et comme tu précises, la Mayenne et l'Anjou, c'est-à-dire qu'à la jonction entre les deux, précisément dans l'Haut-Anjou, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs. Voilà, on a bien compris le message aussi. Justement, ce territoire, on peut peut-être en parler avant de revenir sur ton ouvrage et puis l'exposition, parce que tu y es fortement attaché. Tout à l'heure, j'annonçais 8 ouvrages déjà commis autour de l'histoire. On parlait des pompiers de Segré, sapeurs-pompiers de Segré. 200 ans d'histoire au service de la ville, 200 ans au service de la ville. Le château de la Montchavelleraie, le château du Paty. Souvenir du dernier meunier de Haut-Anjou. Voilà, on sent que tu ne vas pas très loin chercher l'inspiration et fouiller dans les archives, parce que tu aimes ce territoire, j'ai l'impression.
Et oui, j'y suis né et puis j'y vis depuis toujours. Et c'est surtout que j'ai constaté qu'on parlait peu de ce territoire. Et donc, il y avait la place pour justement faire des recherches et publier des ouvrages et amener les gens à s'y intéresser, à la fois les gens de l'extérieur qui n'ont pas forcément l'idée de venir dans le Haut-Anjou ou de penser qu'il y a des choses à y voir, alors que pourtant c'est très riche, et les gens qui y vivent aussi, qui évidemment n'ont pas forcément la connaissance, puisque ce sont souvent des recherches inédites, donc à travers des archives nouvelles qui sont trouvées dans des greniers, dans des albums de famille, eh bien j'arrive à reconstituer la vie de personnages importants ou aussi plus quelconque, mais qui ont une histoire tout à fait intéressante. Et puis souvent le lien entre ce personnage et un patrimoine bâti, un château ou autre chose, un monument, et donc faire parler les pierres, voilà.
Julien, toi qui es du secteur également, alors je ne sais pas si tu partages le même amour que Jean pour ton territoire, ou peut-être pas sur le même sujet précisément, tu partages un peu ce constat de dire qu'en Haut-Anjou, à partir du Lion d'Angers, on a quand même de belles choses, il fait bon vivre.
Oui, je partage ça complètement. Je rajouterais peut-être que par rapport à d'autres régions de France, je sais pas, comme la Bretagne, comme le Pays Basque, moi je ressens moins ce côté où je suis imprégné de ma région. Par exemple, quand je dis j'habite à Angers, je ressens pas au fond de moi ce truc où, alors je suis attaché à cette région où je vis, où je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes, mais je vais pas être comme un Breton ou un Basque qui va être complètement imprégné de ça et qui va le revendiquer. Moi, je vais moins le revendiquer, alors c'est peut-être juste personnel, mais pour autant, oui, je constate que c'est des régions dont on parle moins, alors que pour autant, il y a tellement de choses au niveau de la culture, au niveau de l'histoire à découvrir ici. Ouais.
C'est intéressant ce que dit Julien, du coup, Jean, ça veut dire qu'il y a une identité qui est peut-être visuellement moins marquante pour les personnes même qui vivent sur ce territoire, parce que finalement, on voit que des routes, des champs et puis deux, trois villages.
L'identité est moins marquée en Anjou, c'est sûr. L'Anjou est rattachée à la France depuis plus longtemps que la Bretagne. Les Bretons sont restés fiers de leur indépendance. Et le montrent dans leur littérature, dans leur culture, leur langue évidemment, et le Pays Basque c'est pareil. L'Anjou, on a une langue angevine, mais on l'assimile plutôt au patois, alors qu'il y avait bien une langue angevine. Et voilà, ça peut paraître plus vieillot, les traditions angevines, comme le folklore, comme les danses qui existent aussi, qui sont perpétuées depuis des décennies par certains groupes de folklore, et qui existent bien, qui sont vivantes, ces traditions.
Pardon, est-ce que toi, tu as au cœur de ce territoire ou au travers de son histoire un élément pour lequel tu as vraiment un affect encore plus fort que tous les autres, que ce soit par exemple ta ville de cœur Segré ou justement le château de la Laurie, un thème, une thématique, un élément comme ça qui pour toi te tient énormément au cœur, ou ne serait-ce qu'un endroit physiquement où tu aimes bien aller, je sais pas, les mines de fer à Nivoiseau par exemple, ou des choses comme ça?
C'est très difficile de faire un choix.
Choix n'exclut pas les autres, on est d'accord, mais spontanément, un élément qui te...
Évidemment, la ville de Segré, c'est là où je suis né et où je vis, donc et je guide beaucoup de visiteurs à travers l'année dans les rues de Segré, donc c'est vraiment une ville que j'apprécie beaucoup, et souvent... On me disait, enfin, j'entends encore ça, évidemment, y a rien à voir à Segré, faut aller à Château-Gontier, faut aller à Angers si on veut voir des choses, mais y a rien à faire à Segré, rien à voir. Donc ça, depuis une dizaine d'années, je m'emploie à à déconstruire, si on peut dire, ce cliché et à faire que non, on soit fier de notre ville et puis que d'ailleurs les touristes que j'accueille tous les ans dans les visites me disent mais elle est superbe votre petite ville, elle est très pittoresque et elle a rien à envier à une autre.
On n'a même pas parlé du passé d'Ardoise. D'ailleurs, ça fait pas encore l'objet d'un de tes ouvrages, les Ardoises. Hein.
Non, c'est vrai qu'on peut pas être spécialiste de tout. Déjà, il faut
c'est déjà pas mal.
Il faut savoir où sont ses limites. Donc déjà géographique, c'est le Haut-Anjou. On me dit bah c'est très précis. Ben oui, mais il faut savoir se circonscrire. Et ensuite, il y a des thèmes qui sont déjà bien connu comme l'Ardoise où on a des associations très dynamiques, des ouvrages qui sont publiés régulièrement. Donc je laisse ça aux spécialistes et je creuse des sujets qui n'ont pas été encore creusés.
Charlie,
et donc tu fais aussi des visites guidées alors, tu disais ?
Oui, tout à fait. Je fais des visites guidées toute l'année de Segré pour les groupes sur demande. Et puis l'été, j'ai des créneaux spécifiques où on peut me retrouver en juillet, en août.
Ok, en mode indépendant, pas via l'Office de tourisme.
Si, si. Alors, je suis indépendant, mais l'Office de tourisme et la ville de Segré sont en partenariat avec moi, font ma publicité. Et aux Journées du patrimoine, là, on pourra me retrouver, évidemment, dans mon exposition au Château de la Laurie, mais aussi pour faire découvrir l'hôtel de ville de Segré samedi matin. Il y en aura une autre l'après-midi. Et puis l'année dernière, je faisais découvrir la sous-préfecture. Donc voilà, il y a plein de choses à voir.
Charlie, qui est fan absolu des visites, il aime bien ça, les visites guidées pour découvrir des éléments de patrimoine ou de culture. Jean, d'ailleurs, les visites guidées, on peut te retrouver sur YouTube. Je parle un petit peu de moi en même temps, via une vidéo. Si on veut découvrir le patrimoine de Segré, c'est possible avec cette vidéo.
Oui, notre duo a été vu par près de 10 000 personnes maintenant sur YouTube. Et donc, ceux qui ne l'ont pas encore vu, je les encourage à aller le voir.
Plus une balade un petit peu étendue dans le Haut-Anjou, avec encore là voilà, beaucoup de vues. On peut découvrir en tout cas le patrimoine via ça, via tes ouvrages bien évidemment. Je ne vais pas tous les citer parce que du coup, on n'est pas encore sûr des chiffres. Il y a quand même celui sur Alfred de Falloux qui était le premier, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait.
Cette info est vraie, donc on va rester sur celle-là.
En 2018.
En 2018, le dernier, c'est 300 ans de cheval dans le Haut-Anjou qu'on peut retrouver où, découvrir où ça ?
On peut acquérir l'ouvrage, les quelques ouvrages qui restent, parce qu'en fait, cet été, il y a eu beaucoup de ventes, donc c'est parfait. On peut encore en trouver chez Richer à Angers, et puis sinon, dans le Haut-Anjou, au Lion d'Angers, à Segré. Et puis, venez à l'exposition, voilà, c'est encore mieux. Vous serez immergé dans l'histoire du cheval, justement, depuis 300 ans. Et j'y serai donc jusqu'au 6 octobre, dernier jour de course hippique à Segré pour la saison.
Ah, il y aura des courses hippiques à Segré ?
Oui, il y en a dimanche, 21. Et puis ensuite, en octobre, 5 et 6, vous pourrez profiter de l'hippodrome tout en allant voir l'exposition au château.
Je pose quand même la question parce que j'avais cru comprendre qu'il n'était plus en activité l'hippodrome de la Laurie.
Toujours, plus que jamais, depuis 172 ans.
Voilà, il a regardé Julien, il a l'air de dire, eh, tu vois ça au Lion d'Angers ? Non, si, c'était avant, après, il y a une compétition peut-être entre les deux.
Non, non, chaque hippodrome a sa particularité.
A sa particularité. Bon, Julien, j'espère t'y voir quand même du côté du château de la Laurie. Ça t'a donné envie de te remettre en selle ?
Ben, surtout que, oui, très bon jeu de mots. Je ne l'ai jamais visité en plus, donc ce sera l'occasion d'aller le visiter.
Ce fameux château de la Loire.
Le château termine, pour les visites guidées du château, ça se termine avec les journées patrimoine dimanche. Mais l'expo continue jusqu'au 6 octobre.
Et ben voilà, tout est quasiment dit. On aurait pu ouvrir le débat encore plus loin. Je sais pas s'il y a d'autres actualités après déjà des. Non. Ah non, t'as pas d'idée pour l'instant.
Si, il y aura une visite spéciale du château de la Laurie à la bougie là, de manière nocturne, au tout début des vacances de la Toussaint. Voilà, le 17. C'est pas encore paru, mais voilà, faut s'informer auprès de l'office de tourisme pour y vous inscrire. Une visite un peu exclusive du château, en sortant quelques archives, quelques objets du château qui seront visibles vraiment pour cette occasion.
Ouais, ça donne envie, oui, avec l'esprit Halloween, ça permet de se mettre dans l'ambiance. En tout cas, pas d'autres ouvrages déjà en tête.
Si, il y en a beaucoup. Il y a encore du pain sur la planche, mais pour l'instant rien qui va sortir dans les prochains mois.
Du pain sur la planche, mais pas sur l'ardoise, on a bien compris. Ce ne sera pas pour tout de suite l'histoire de l'ardoise en Haut-Anjou par toi, Jean. Merci beaucoup. Donc, 300 ans de cheval dans le Haut-Anjou, à retrouver partout là où tu l'as dit. L'exposition jusqu'au 6 octobre au château de la Laurie. Julien, voilà, on pourra apercevoir Julien aussi. parce qu'il ne l'a pas dit, mais il ne fait pas de cheval. Voir les courses hippiques.
J'ai de la famille dans le cheval, je vais voir les courses hippiques, mais non, je ne monte pas.
Donc ça promet, si jamais t'essayes, ça promet des choses assez marrantes. Eh ben merci beaucoup, Jean.
Merci beaucoup de votre accueil.
Charlie également. On se retrouve dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est Adrien, normalement, qui sera. Non, oui, c'est ça, à ta place. Et puis, mon cher Julien,
on se dit à bientôt.
À bientôt.
Pour de nouvelles aventures.
Exactement. Prenez soin de vous. On se dit à demain jeudi. Et topette.
Topette.
Ciao. Topette.
Il faut être douce, docile, fragile. Parce qu'il pourrait être un homme, il faut être fort, puissant, solide. Parce qu'il pourrait être queer, il faut être sensible, coloré, utopiste et fou. Parce qu'il pourrait être artiste, il faut être égoïste, créatif, socialiste et joueur. Parce qu'il pourrait être spécial, il faut être hors des codes. Parce qu'il pourrait être normal, il faut que ta vie soit bonne. Parce qu'il pourrait être sensé, il faut taire ses pensées. Parce qu'il pourrait être normal, il faut donner la part. Ce ne sont que des préjugés pour nous réduire en minorité, diviser pour mieux régner, créer des clichés pour dominer. Ce ne sont que des préjugés pour nous réduire en minorité, diviser pour mieux régner, créer des clichés pour dominer.
Les hommes doivent être forts, jamais montrer leur peine. On leur dit, sois un rock, mais à l'intérieur ça saigne. Les femmes, on les réduit à leur apparence. Un joli sourire, reste discret, fais pas trop de vagues, t'as pas de chance. Hommes et femmes, on est tous en même combat. Briser les chaînes des préjugés, c'est ça nos débats. Oublions les normes, les cases et les barrières. Parce qu'au fond, c'est l'égalité qui est derrière. Ouais.
Ce ne sont que des préjugés pour nous réduire en minorité, diviser pour mieux régner, créer des clichés pour dominer. Ce ne sont que des préjugés.
Pas les bras, une nouvelle ère commence, trop bafoué comme Hera. Mon odyssée ne fait que commencer, nouvelle mentale depuis des années. J'ai plus envie de renoncer, je bousculerai le rap français.
Y'a les contacts, j'passe un coup de fil à Momo, j'sors du coma. Poulet ma vie, j'mets les tomates, j'défonce la prod, peu importe la tona. J'traîne pas avec tous ces connards, y'a peu de chance pour qu'on fasse une collab. Attitude et charisme, colle à la peau, bientôt j'suis dans la tête des incollables. On a pris du level et des tartes. Soit j'suis dans le micro, soit j'fais des vaches. Comment est-ce que la que dalle, bientôt j'me pars à part ça faire un coucou à Polo. Cette année on voyage, cette année on baisse tout, j'ai passé trop de temps devant la Nintendo. Deux ans à Bois et du Nord, le psy m'a proposé, mais j'ai jamais pris ses méthodes. J'carme un call of au charme, call of au charme. Si elle est pas de ma prison mentale, j'ai dit tout pète au matin.
Tout pète.
Y'a la réussite qui m'attend, j'suis patient. T'as vu le temps que ça m'aime, et maintenant c'est tous les sons qui pètent sa mère. Si t'as pas d'amour à me donner, on a rien à faire ensemble. Rien à faire ensemble. Si t'as pas d'amour à me donner, on a rien à faire ensemble. Rien à faire ensemble. Chose qui fait tous les moins de 17, il a parlé sur moi, mais je suis pas qui c'est. Des nouveaux flots, j'en ai ramené par dizaines. La concu, je vais les baffer, y'a pas de pitié. Je me suis tordu le faussaire comme la chambre de Cissé. Comme celui qui doit rédiger une disserte. C'est quel plus chaud, mon petit toi me dit qui c'est. Je vous lève la prod comme si j'avais de biceps. La gova est brosson comme la boîte mobile. Jacques Dalle, on va pas se mentir. Dans le coffre, y'a pas de marchandise, y'a qu'un cadavre. Celui de l'ancien, moi je l'ai tué, j'ai enterré, je l'ai moitié. Je laisse prendre place à la folie rare, que ce soit la moula qui motive. Pas besoin de motif, on monte en l'air, on lit même pas la notice. Call of au charme, call of au charme. J'ai scié les barreaux de ma prison mentale. J'ai dit tout pète au maton.
Tout pète.
Y'a la réussite.
Radio G 101.5 FM.